cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 26 juin 96.
Je vous avais dit que le dernier cours sur la personne serait consacré à la personne chrétienne. Faudrait. On a commencé de le faire, mais on ne peut pas le faire entièrement. Du reste, il vaut mieux toujours qu'on termine un sujet qui est central, le sujet de la personne qui clôt d'une certaine manière la métaphysique et qui ouvre une possibilité d'entrer dans la sagesse philosophique, puisque c'est par la personne qu'on est tout proche du lever du soleil. On est au sommet de tout ce que nous expérimentons. Or, n'oubliez jamais que pour découvrir l'existence d'un être premier de Dieu, il faut partir de l'expérience. Si nous partons d'une idée, nous ne découvrirons jamais Dieu. Dieu est présent dans les idées que d'une manière seconde par l'homme. Il n'est pas présent directement dans l'idée. Le siège de la sagesse, c'est Marie, une personne, et non pas une idée. Thank you. Et Nicodème pose la question, comment naître une seconde fois? C'est une naissance. La vie divine est une naissance. On rajeunit par le point de vue chrétien. Dans cette jeunesse de Dieu, donc dans la nouveau vis-à-vis du corps. C'est la première chose, la plus étonnante, qui permet le martyre. La personne chrétienne est témoin d'un monde qui n'est plus ce monde. Et on porte ça tout de suite en soi. Et c'est ça qui fait que la personne chrétienne a quelque chose qui demeure d'insupportable pour le rationaliste. Vous avez un exemple merveilleux de cela dans le discours de Merleau-Ponty quand il a été reçu au Collège de France. C'est un discours qu'on ne doit jamais oublier parce qu'il est très significatif pour ce que représente la personne chrétienne pour quelqu'un qui est le Nicodème du monde moderne. Le Nicodème du monde moderne considère que la personne chrétienne, si elle existe, elle est au-delà de la contrariété de toute la philosophie grecque, puisque elle dit que le corps, qui est essentiellement corruptible, qui est essentiellement le monde du mouvement, le monde de la matière, que le corps humain a quelque chose qui réclame l'éternité en tant qu'il est uni à la résurrection du Christ. Le chrétien est déjà ressuscité dans son corps par l'union qu'il a au mystère du Christ. Et cela apparaît tout de suite. Je comprends très bien que vu de l'extérieur, c'est contradictoire. Et Merleau-Ponty souligne ça avec force. Ce qui fait que lui, en tant que philosophe, déclare que c'est insupportable et qu'on ne peut pas l'accepter. Parce que la grande distinction entre le temps et l'éternité est dépassée. Et c'est la chose la plus immédiate, puisque c'est la sensibilité qui fait partie de notre personne. Notre corps fait partie de notre personne. C'est l'élément dernier, conditionnement substantiel. Alors, ce conditionnement substantiel, pour le chrétien, pour la personne chrétienne, demeure un conditionnement substantiel sur la terre. Et le chrétien demeure sur la terre, il demeure dans le temps. Mais le temps est assumé par l'éternité. Et en tant que le temps est assumé par l'éternité, le corps mortel est assumé par le corps glorieux. Et ce corps glorieux, il est caché, c'est sûr, il est invisible, il est objet d'espérance. La réalité n'est pas présente, mais cette réalité l'espérance de la résurrection et de la résurrection dans son corps, qui sait que toutes les infirmités de son corps qui grandissent avec la vieillesse, que toutes ces infirmités vont être dépassées un jour si elles sont brûlées par l'amour, par l'amour du Christ, si elles sont vécues dans la résurrection du Christ. Le conditionnement substantiel est dépassé. Il est dépassé dans la promesse de la résurrection, dans un corps glorieux, la personne d'un être qui vit dans la gloire. Le corps n'est plus un conditionnement substantiel. Il est le rayonnement de l'amour, substantiellement. Et donc, il y a un passage très étonnant. Et ceci, c'est ce qu'il y a de plus visible. Et c'est ce qu'il y a de premier dans la personne chrétienne. Tout de suite là, j'allais dire qu'on touche un nouvel horizon. L'horizon de la terre est transformé du dedans par l'aurore de l'éternité. La personne chrétienne rayonne l'éternité. Et l'éternité n'est pas seulement quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'actuel. Parce que le temps qui mesure notre corps et toutes nos opérations corporelles, le temps est transformé déjà dès maintenant par la lumière de l'éternité, par le dépassement dans l'éternité. Il y a là, je crois, une première dimension visible. Et je commence exprès par le conditionnement substantiel du corps. Et vous comprenez pourquoi? Parce que la personne chrétienne est une personne toute entière en attente de l'éternité. Je suis en attente de l'éternité. Donc, c'est une personne qui assume une croissance, qui assume un devenir. Et ceci, tout de suite, celui qui ne vit pas de l'attente de la résurrection n'est pas chrétien. Et donc, sa personne n'est pas une personne chrétienne. Et ceci, voyez, modifie totalement mon regard sur mon corps. Mon corps n'est plus conditionnement substantiel. Il le demeure. Il n'est pas changé physiquement, métaphysiquement. La grâce ne change pas l'être. Elle le respecte. Elle l'accepte. Mais la grâce ne modifie pas mon être. Et donc, la distinction du devenir et l'être demeure. Mais elle est complètement transformée. Parce que ce devenir, c'est une attente d'éternité. Et c'est une attente d'éternité. L'éternité est déjà là. Et c'est là les rapports entre l'être et le devenir qui sont complètement changés dans la personne chrétienne. Et qui fait que le conditionnement substantiel du corps Et nous ne sommes plus ce monde, puisque nous sommes dépassons ce monde. Et ceci se manifeste tout de suite par le point de vue de l'attente de la gloire, de l'attente de la résurrection. Le corps prend une importance nouvelle.
Le néoplatonisme
de Plotin qui expose avec force ce qu'est la beauté. Au point de vue uniquement dans le réalisme humain et philosophique, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Mais ce quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une anticipation de la gloire déjà des sept terres, qui est une anticipation en promesse partiellement réalisée mais cachée. Or une beauté cachée, c'est une beauté imparfaite, parce que la beauté demande de se manifester, elle est lumière. Et grâce à ce dépassement, je vois tout de suite que toute l'affectivité prend une valeur nouvelle en terre chrétienne. Et c'est là où on voit combien le stoïcisme est peu chrétien quand il dit que la passion est mauvaise. Alors que la passion est liée à notre affectivité sensible. Elle fait partie de notre personne chrétienne. Et elle nous permettra de témoigner. Elle permet à un chrétien de témoigner jusqu'au martyr. C'est dans l'affectivité sensible et dans l'aspect passionnel que le martyr fait partie essentielle de la personne chrétienne. Le chrétien est un témoin et un martyr. Parce que témoin, on l'est tous plus ou moins. Enfin, c'est le même mot grec, ce qui est très significatif. Témoin et martyr. Par le témoignage, on est toujours martyr. C'est pour ça qu'on a tellement de peine à accepter le témoignage. Et c'est pour ça que le philosophe, en tant qu'il est philosophe, a là une difficulté particulière pour accepter la personne chrétienne. Parce que la personne chrétienne va donner une nouvelle signification à la passion, à l'affectivité sensible, à l'affectivité passionnelle. C'est que grâce à cette manifestation sensible, la passion et l'affectivité est essentielle à la personne humaine. Pas toujours juste. La 16. plus grand dans la vie chrétienne que dans la vie philosophique. Sauf si on est stoïcien. Si on n'est pas stoïcien, l'ascèse a une place seconde en philosophie. Dans la vie chrétienne, a une place essentielle. Pourquoi ? Parce que le point de vue de l'affectivité sensible, passionnelle, et de l'intérieur, transformé par la charité, et fait partie essentielle de notre vie. La charité chrétienne. Et si ça fait partie essentielle de notre vie, il y a une certaine exaltation de la sensibilité et de la passion. Tous les grands saints sont des passionnés. Et ça se manifeste dans leur vie. Ils ne sont pas tièdes. Les tièdes, je les vois mûrer. Donc, la personne chrétienne qui voudrait tout ramener à la prudence, ça devient une grimace de la vie chrétienne. Parce que l'homme prudent veut toujours se dominer. Et tout ce qui est en dehors de la domination propre de sa sensibilité, de son corps, tout ce qui dépasse là, de notre peur. Alors que la charité divine dépasse l'affectivité humaine et demande d'être complètement assumé pour faire de la personne humaine un témoin. Posons-nous la question au point de vue de l'art, transformation de l'univers. Là aussi, il y a quelque chose de très particulier pour que la sensibilité, pour que la passion puisse être pleinement assumée et entrée dans la structure par la pauvreté, l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté s'impose à l'art chrétien. Un art chrétien a nécessairement une sensibilité qui est plus forte que la sensibilité de l'artiste non chrétien. Puisque notre corps doit être glorifié, doit être ressuscité. Et donc, la sensibilité du chrétien, et par le fait même l'art chrétien, doit aller plus loin qualitativement, dans une pauvreté plus grande que l'art humain. Un art qui réclame la simplicité. C'est pour ça qu'on se demande toujours si l'art rococo est vraiment chrétien. Parce que c'est l'aspect quantitatif. On sent bien ça. Assumer la quantité risque toujours un débordement passionnel. L'exaltation de la chair, ça c'est quantitatif. C'est très bien dans un art romantique, mais comme l'art romantique a besoin d'être purifié pour être chrétien, et quand l'art romantique n'est pas purifié suffisamment par le point de vue chrétien, il y a quelque chose qu'on sent qui n'est pas chrétien. cette salle a été inaugurée par un théâtre. Et on a tous senti, je crois, j'espère, tu vois, si on a un sens chrétien suffisamment poussé, qu'il y avait des excès romantiques qui ne sont pas chrétiens, qui peuvent intéresser, c'est pas du tout non intéressant. Le philosophe s'intéresse au cyclope, un homme qui n'a qu'un œil. Il y a un petit peu de ça dans le point de vue quantitatif qui déborde l'aspect qualitatif. Il y a forcément des réminiscences quand on est ici, ça ne peut pas être autrement. Si on est sensible. Et c'est un gros problème de voir la personne chrétienne. Comment assumer l'art ? Et bien la foi prend une importance plus grande pour le chrétien que pour le païen. C'est bien évident. Regardez le développement de l'art dans le christianisme. Regardez-le dans l'islam. Regardez l'art chrétien dans la vie, dans le point de vue architecture. Et regardez-le dans les autres du champ. La différence entre un temple tel que vous les voyez à Taïwan, tel qu'on les voit dans l'Inde, les hindous, et puis la romantique. Et l'art chrétien, beaucoup plus pur, qui est le roman, qui est quelque chose de tellement limpide. Vous-même, quand il commence à déborder cette première simplicité, comme ça reste limpide, toujours dans les yeux et dans la tête, ce point de vue de l'église Saint-Jacobin à Toulouse, qui est d'une limpidité extraordinaire. Et ça dépasse l'église romane, mais ça garde sa simplicité. L'art chrétien a toujours une très grande simplicité par la pauvreté, grâce à la pauvreté. La personne chrétienne implique l'adoration. Adoration en esprit, en vérité. La dépendance à l'égard du Créateur. Dans une grande, grande limpidité. C'est, je crois, dans la personne chrétienne que l'adoration est vécue dans sa plus grande qualité et qui fait une exigence, justement, de dépouillement et donc de pauvreté. Et c'est tellement grand dans la personne humaine que la pauvreté est une béatitude. Parce que je pourrais là comprendre que les béatitudes, c'est la description de la personne chrétienne. J'aurais pu commencer par là. Je voulais commencer par le corps, parce que je crois dans l'aspect du devenir. Il faut toujours prendre cette dimension en premier lieu. Les béatitudes, c'est déjà un fruit. Et donc c'est surtout du côté spirituel. Et c'est ça qui donne la signification dernière à la cèse chrétienne. l'essence du chrétien par la foi, et par la foi qui réclame la contemplation, par la foi qui, par l'amour, implique le don de sagesse. Chez la personne chrétienne, la recherche de la vérité prend un absolu, puisque je suis tout de suite en contact avec celui qui est la vérité. Et j'expérimente divinement par la foi et les dons du Saint-Esprit cette présence de vérité. Le Christ est vérité pour moi. C'est donc à travers l'humanité sainte de Jésus que je découvre cet effort constant de vérité pour la personne chrétienne. Et je découvre en même temps la soif d'aimer, le désir, la recherche de la vérité et la capacité d'aimer sont évidemment pour la personne chrétienne l'aspect le plus fort, le plus fondamental qui caractérise la personne chrétienne. La personne chrétienne est tout entière prise par la recherche de la vérité qui est immédiate et par la qualité d'aimer et la force d'aimer qui rejoint le martyr. Une présence du Christ qui est unique pour la personne chrétienne, puisque elle est membre du Christ. La personne chrétienne est membre du Christ. Alors là, il y a quelque chose de très important à saisir, c'est que dans la personne chrétienne, l'autonomie beaucoup plus grande et la dépendance est radicalement plus forte. Donc, c'est dans la personne chrétienne qu'on saisit le mieux comment plus on touche sa finalité, plus on est dépendant et plus on est autonome. C'est déjà vrai pour la personne humaine dans l'adoration. Personne religieuse. Mais c'est infiniment plus vrai pour le chrétien. Et c'est par là que vous voyez comment la personne chrétienne est toujours une personne religieuse. Une personne religieuse qui ne s'arrête pas à l'horizon dévotion, qui ne s'arrête pas à l'aspect passionnel, affectif. Il peut y avoir des débordements de dévotion. Mais ces débordements de dévotion sont beaucoup plus religieux que chrétiens. C'est vrai, les débordements de dévotion impliquent toujours un élément sensible. Et chez l'homme religieux, qui se manifeste par ces débordements de dévotion. Tout on invente des choses extraordinaires dans les dévotions. Ce serait très intéressant de faire l'histoire des dévotions dans les diverses religions et dans la religion chrétienne. Dans la personne chrétienne, il y a le dépassement de la dévotion. Il y a le dépassement de l'aspect religieux pour atteindre le divin à l'état pur. Mais le divin, pour nous, est toujours chrétien. Donc il est toujours incarné. Et c'est peut-être là où on touche le sommet de la personne. c'est que toutes les dimensions de la personne humaine, dans la personne chrétienne, trouvent un sommet. Parce que c'est une personne divine qui a à la fois une dépendance beaucoup plus marquée et évidente à l'égard de Dieu et en même temps une autonomie beaucoup plus grande. Puisque le chrétien dans sa personne est Dieu. Dieu, vous comprenez dans quel sens ? Un Dieu relatif au vrai Dieu. Un Dieu en